Vous écoutez France Culture.
Bienvenue donc à toutes et à tous autour de la grande table d'été qui, en ce lundi 4 août, jour anniversaire de l'abolition des privilèges, a décidé de vous parler sinon d'égalité, du moins du collectif. En écho à la programmation du banquet du livre qui vient de débuter à La Grasse et qui se tiendra jusqu'à la fin de la semaine dans ce village des Corbières, un festival étrange et pénétrant qui fête cette année ses 19 ans et se demande qui est nous aujourd'hui. Mais attention, à la recherche du sens et du son de la notion de collectif, la grande table d'été étendra sa grande nappe à carreaux au-delà du département de l'Aude, à vrai dire jusqu'à l'Inde, en passant par Jérusalem et Conakry. Ainsi, à 13h30, irons-nous à Chennai, l'ex-Madras, en compagnie des Fantasio Indus Bandits, des flibustiers punk hindouistes et fluorescents qui jouent cette semaine dans le cadre du festival Paris Quartier d'été. Et puis, chemin faisant, nous partagerons la première vue d'Eau de la Vigne et la chronique sucrée en guise de dessert de Marine Loyen. Et puis, nous rendrons hommage au maître du théâtre de l'Afrique de l'Ouest, le metteur en scène, chorégraphe et pédagogue Souleymane Colly, qui s'est éteint vendredi. Mais pour l'heure, place donc à la première partie de cette grande table d'été dont les convives ont chacun à leur manière à voir avec le collectif et avec le banquet du livre de La Grasse, à commencer par le chroniqueur musical, scénariste et comédien Jacky Berroyer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur avec Pascal Thirode d'un film qui sera projeté samedi au banquet du livre, un film consacré à Benny Lévy qui a participé à la fondation de ce festival, le banquet du livre chapeauté par les éditions Verdier. À vos côtés dans notre studio, le cinéaste et théoricien de l'image Jean-Louis Comolli, avec qui les auditeurs assidus de la grande table ont déjà maintes fois rompu le pain. Bonjour Jean-Louis Comolli.
Oui, bonjour.
Et puis par téléphone depuis le village de La Grasse où se tient le banquet du livre, tel un dieu de l'Olympe, humant à distance les savoureux morceaux que nous cuisons à même la table de notre studio, interviendra le philosophe Gilles Anus. Bonjour.
Bonjour.
Gilles Anus, vous avez tenu en fin de semaine dernière un séminaire autour de la question du nous entre Sartre et Benny Lévy. Et puis votre conversation de l'après-midi vendredi prochain, vendredi 8 août à 16h, s'intitulera « L'épreuve du collectif ». Mais à La Grasse, donc, on l'entend, le nous s'explore cette semaine sous bien des aspects, à la fois à travers le fantôme de Benny Lévy disparu en 2003 qui ne cesse de revenir hanter l'abbaye de La Grasse, mais il y a aussi la notion de communauté en Grèce ancienne, le nous des flamencos, celui des rugbymen ou encore des internautes. Mais puisque nous parlons d'un festival, j'aimerais que nous interrogions d'abord ce nous, ce collectif bien particulier qui réunit les festivaliers qui sont actuellement rassemblés aux quatre coins du territoire français avec des mobiles divers et variés. Jean-Louis Comolli, selon certains historiens, le festival, au sens actuel du terme, celui de manifestation artistique périodique, daterait du début du XVIIIe siècle et serait né en Angleterre avec les festivals de chants chorales religieux. Alors selon vous, le but d'un festival est-il sinon religieux, du moins peut-être de relier ses participants ?
Ben écoutez, ça dépend de quel. Voilà, il faut distinguer peut-être festival et festival. Par exemple, il y a des festivals compétitifs où il me semble que la paix ne règne pas. Au contraire, l'envie, la haine, des festivals très désagréables. Je pense à Cannes, par exemple, qui n'est pas l'endroit où j'irai passer une semaine, loin de là. En revanche, à La Grasse, il n'y a pas de compétition. Le mot festival pourrait ne pas convenir. Le banquet est un banquet avant tout, c'est-à-dire les gens sont là pour vivre un moment ensemble, partager éventuellement des mets et des boissons. Et puis, écoutez, voilà, c'est ça qui frappe, c'est que à La Grasse, on pourrait dire que l'écoute collective atteint une certaine intensité. Voilà. Or, l'écoute, c'est comme le disait Deleuze il y a quelques années, avant de mourir, l'écoute, c'est ce qui manque. On a beaucoup de paroles et on a peu d'écoute. Vous, qui travaillez à la radio, vous devez en savoir quelque chose. C'est tout à fait important d'écouter, écouter l'autre. Et oui, aujourd'hui, on paye d'ailleurs des psys pour se faire écouter, parce que l'autre ne nous écoute pas la plupart du temps. Donc, à La Grasse, les gens sont réunis pour écouter. Alors, écouter qui ? Écouter des romanciers, écouter des philosophes, comme Gilles, d'autres encore, autour de questions qui sont depuis déjà une bonne dizaine d'années, des questions liées au nous, justement, liées à l'être ensemble, au vivre ensemble, que faire de l'autre, qu'est-ce que un, voilà, la question du singulier. Bon, alors c'est sous, comment dire, le haut patronage, il va rire, de Jean-Claude Milner, que tout ça se trame et que nous sommes réunis pour, voilà, pour réfléchir ensemble à qu'est-ce que c'est que réfléchir ensemble. Et évidemment, c'est très studieux, c'est très sérieux, et il n'y a pas de, comment dire, de fantaisie ordinaire comme on en trouve dans tellement de festivals.
Donc il y a assez peu de jonglerie à l'abbaye de la Grâce pendant le banquet du livre. Gilles Anus, vous avez écouté attentivement Jean-Louis Comolli. Vous vous reconnaissez dans sa description de ce qui ferait la singularité, la spécificité de l'être ensemble des festivaliers du banquet du livre ?
Oui, je me reconnais tout à fait dans ce qu'il vient de dire. J'ajouterais cependant une chose. Donc il y a l'écoute qui est tout à fait exceptionnelle ici et très frappante. Et puis il y a, me semble-t-il, la manifestation d'une volonté d'être ensemble, d'une volonté du nous, et une volonté qui passe autour non seulement de l'écoute, mais également d'un certain travail du savoir, d'un certain exercice de la pensée. C'est-à-dire, ce qui est frappant ici, c'est que les gens viennent, ils participent à tout un tas de choses qui sont soit des conférences, soit des séminaires, soit des ateliers, donc des choses où aussi les gens prennent part à une élaboration de pensée. Et il est vrai qu'il y a cette écoute et cette volonté de construire aussi de la pensée ensemble, pas simplement de venir entendre une pensée qui serait déjà faite, mais également dans la mesure du possible. Alors c'est un risque, qui peut échouer comme réussir, mais avec cette volonté que quelque chose aussi se constitue durant le banquet.
Jacky Berroyer, vous avez fait l'expérience, sinon du banquet de la Grâce, des festivals. Alors je disais que ça datait du XVIIIe siècle dans sa forme moderne, cette notion de festival, et que ça tenait aux chants religieux. Je ne sais pas si vous avez assisté à des festivals de chants religieux ou peut-être de musique du diable.
Ah, de musique du diable plutôt, oui, assez souvent.
Et quel souvenir vous gardez justement du lien, de l'être ensemble qui se constitue dans ces espaces-temps singuliers ?
Écoutez, à vrai dire, je n'aime pas trop. C'est-à-dire, j'aime beaucoup la musique. Non, je me suis trouvé souvent dans les festivals. En gros, j'aime pas trop ce qui s'y passe. Je suis effaré. En même temps, je suis un auditeur assez apparemment passif. Par exemple, si je vais dans un festival de musique. Où c'est plutôt du rock, où les gens dansent, poussent des cris, lèvent les bras et tout ça. J'ai beaucoup de mal avec ça, mais par contre, je suis toujours assez fasciné par la musique et les musiciens. Et dans les années 60, dans les premiers concerts auxquels j'ai participé, auxquels j'ai assisté, j'ai vu des choses. Vous savez, on disait que les jeunes, voyant arriver le rock'n'roll, cassaient les sièges dans les... C'était vrai. Et moi, j'ai le souvenir de ça, de voir tout le monde s'agiter autour de moi. Moi, j'étais fasciné. C'était la première fois que je voyais des gens sur scène en train de faire de la musique. Je redoutais que tout ça s'arrête à cause du... Alors, je voyais un type en train de casser une chaise à côté de moi qui s'est retourné, qui m'a dit « Ça ne t'intéresse pas, toi ?» Alors voilà, moi, ça, aujourd'hui, je dirais, voilà, ça m'intéresse plus que toi, mais toi, t'es le phénomène social.
Alors vous, Jean-Louis Comolli, vous avez joué le rôle de phénomène social, vous avez cassé des chaises en festival.
J'ai fait beaucoup de bêtises, et il y avait encore à Philippeville, en Algérie, des cinémas à l'ancienne avec des chaises en bois. Et quand on a passé le premier film de rock'n'roll, dont j'ai oublié le titre, mais enfin, vous vous en souvenez certainement, bon, on était là tous, sans raison, une sorte de mot d'ordre secret qui avait
parcouru... La blonde et moi.
Non, c'était pas ma blonde et moi, c'était c'était pas non plus certains aiment chaud, c'était autre chose. Bon, et donc on était là et on a cassé des chaises, voilà. Mais elles étaient en bois, donc il y avait un véritable plaisir à casser du bois.
Il y a une autre musique qui vous est chère, qui n'est pas le rock'n'roll, Jean-Louis Comolli, où on cherchait à casser autre chose que du bois.
Voilà.
Le jazz, mais je vous propose d'en écouter un extrait, puisque Jacky Berroyer parlait des années 60, c'est aussi 1969, l'année de la fondation et du premier disque du Liberation Music Orchestra de Charlie Haden qui vient de nous quitter.
Très bien.
c'était Drinking Music, un interlude de ce premier album du Liberation Music Orchestra, orchestre collectif, orchestre de lutte politique mené par Carla Bley et puis Charlie Haddon, Jean-Louis Comolli. Vous avez écrit dès les années 70 sur le free jazz et le black power dans un ouvrage de référence. Aujourd'hui, le jazz, pendant l'été, trouve à s'exprimer un peu partout en France, mais en particulier. Il y a quelque chose de particulier dans le collectif du jazz.
Justement, la notion de collectif qu'on utilise pour la politique ou pour le basket, cette notion prend tout son sens avec l'improvisation jazz. Pourquoi ? Parce qu'on joue ensemble, c'est certain, donc il y a quelque chose de l'ordre de l'ensemble, mais chacun joue sa ligne. Voilà. Et il n'y a pas d'uniformité, là on vient de l'entendre. Les différents instruments, les différents solistes sont singuliers, gardent leur singularité à l'intérieur d'un collectif. Et donc pour moi, c'est la définition la plus forte qu'on trouve aujourd'hui de ce qu'on appelle collectif. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas là pour effacer les individualités, mais au contraire pour les renforcer, leur permettre d'apparaître d'une manière plus forte encore que s'ils jouaient tout seuls. Le collectif, d'une certaine façon, démultiplie les puissances de chacun et chacun trouve à s'exprimer singulièrement à l'intérieur d'un ensemble. Ça me touche beaucoup. Si c'était comme ça dans la vie, ça serait formidable. Or, on est trop, influencé par les mots d'ordre du marché qui nous font croire que le collectif, c'est l'uniformité, l'uniformisation, tous pareils, on défile, etc. C'est pas du tout ça. Voilà, le collectif, comme au contraire, foyer d'agitation des singularités. Ça me plaît beaucoup.
Donc il faut courir pendant cet été les festivals de jazz pour en faire l'expérience dans son corps.
Ça fonctionne toujours aujourd'hui, bien sûr. Mais vous avez Luba, vous avez Portal, vous avez Quantité, voilà.
Au cours du mois d'août, Jackie Berroyer, Charlie Haddon, c'est une singularité, c'est un personnage qui vous importe.
Là c'est bien tombé, parce que là, vraiment quelqu'un qui est très particulier. Et je suis en train de penser on est toujours triste quand les musiciens, les jazzmen disparaissent, vous savez. Il y en a trois qui doivent être plus particulièrement tristes, ce sont ses filles. Il a des filles qui ont aujourd'hui 16 ou 18 ans et qui viennent d'enregistrer un disque des triplés. Ce monsieur avait des triplés. Et voilà, les triplés ne l'ont plus.
Encore du collectif.
Il y a un disque qui vient de sortir de lui, d'ailleurs, avec Keith Jarrett, avec qui il a joué beaucoup. Et un disque en duo, je crois que c'est chez ECM. Et il n'est pas sorti... Il n'est pas sorti à l'occasion de sa mort, je crois qu'il est sorti il y a quelque temps. C'est d'ailleurs un disque qui a été enregistré il y a longtemps, mais j'ai l'impression qu'on l'avait sorti parce que, quand même, on sentait qu'il était mal parti. Il fallait l'aider d'une manière ou d'une autre.
Gilanus, à la Grasse, il n'y a pas particulièrement de concerts de jazz, de musiques improvisées, de free jazz, comme on disait dans le temps. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de jazz, d'improvisé, justement, dans le sens riche et plein du terme, dans la façon de penser et de s'écouter à la Grasse ou au Banquet du Livre ?
Alors, il y a eu un concert de jazz en ouverture, c'était assez nouveau pour le Banquet, qui était très, très, très libre d'ailleurs, de très belles musiques, de très bons musiciens. Le trio d'en bas, ça s'appelle. Alors voilà, mais ceci dit, il y a ici au Banquet effectivement quelque chose de l'ordre de cette improvisation. C'est de deux ordres, si vous voulez. D'une part, dans les ateliers, dans les séminaires dans lesquels les gens travaillent, il y a nécessairement une part d'improvisation. C'est-à-dire qu'on arrive, on a préparé quelque chose, on sait de quoi on veut parler. Et ensuite, l'idée, c'est que la confrontation des intelligences qui sont réunies produise à partir de là quelque chose de neuf. Ça, c'est la première chose. Et puis après, il y a l'effet pour les personnes qui assistent à l'ensemble des conférences, ou en tout cas un certain nombre de conférences du Banquet. Il y a un effet d'improvisation dans les liens, les ponts qui se tissent entre les différents discours. Ils sont des discours de nature très différente, enfin si on parle en tout cas en termes académiques, des anthropologues, des historiens, des philosophes, des écrivains. Mais tout ça constitue petit à petit durant la semaine une sorte de tissu de patchwork improvisé, effectivement. Donc il y a aussi quelque chose de cet ordre-là, oui.
Alors, la culture trouve à exprimer sa dimension collective au Banquet du Livre, dans les festivals de jazz, dans les festivals de cinéma. Certains, en tout cas, à propos de ce que disait Jean-Louis Comolli du Festival de Cannes, il y en a d'autres. Il y a le Festival de Lussas pour le documentaire en Ardèche.
Alors qu'il n'est pas compétitif, lui.
Ou encore celui de Marseille pour le documentaire également que vous connaissez, Jean-Louis Comolli. Mais à propos de cinéma, je vous propose d'écouter une chanson que les cinéphiles de tous les pays connaissent, comme ils connaissent le nom de Godard. Une chanson La Chinoise du film, tirée du film La Chinoise de Godard, sorti en 1967. «
le Vietnam brûle et moi je hurle Mao, Mao. Johnson rigole et moi je vole Mao, Mao. Le napalm coule et moi je roule Mao, Mao. Les villes crèvent et moi je rêve Mao, Mao. Les putains crient et moi je ris Mao, Mao. Le riz est fou et moi je joue Mao, Mao.
C'est le petit livre rouge qui fait que tout enfin bouge.
L'impérialisme dicte partout sa loi.
Alors dans le cinéma de Godard, comme au banquet du Livre de la Grâce et puis autour de la grande table d'été, aujourd'hui le nous, le collectif, possède une dimension politique. C'est le nous des manifestants, des sympathisants, celui aussi des membres de partis de gouvernement ou de groupuscules gauchistes, anarchistes ou d'extrême droite. Alors vous, Jacky Berroyer, qui venait de signer un film consacré à Benny Lévy, est-ce que vous avez comme lui chanté Mao Mao de Claude Chan?
Ah non, de toute façon, celui-ci ne swing pas beaucoup. Benny Lévy, lui, était très jazz, sans le savoir, parce que j'ai rarement entendu une oralité aussi swingante.
C'est vrai.
Alors vous,
et puis, pour revenir au festival, vous savez, moi, j'ai dû, en faisant un peu le clown comme ça pour la télévision, le cinéma, de participer au festival de Cannes. Alors, il y avait une époque où j'y étais pour les deux raisons, parce que je participais à une émission quotidienne à la télévision, et puis parce que j'étais dans des films qui étaient sélectionnés. Eh bien, c'est quand même un sacré boulot, mais moi, j'avais des combines. Je prenais un scooter, j'allais à la piscine de la Boca, la piscine couverte où personne ne va, comme ça. Et puis je me mettais à la terrasse du café tabac, et là je lisais les nouvelles, tout ça. Et ensuite je revenais dans l'enfer doré, j'allais reposer des affaires dans mon petit Martinez. Et ce qui est très difficile là-bas, bon, et évidemment c'est un peu... quand on est... On peut être... Il y a des gens qui rêvent d'aller là-bas. Et c'est assez effrayant pour d'autres. Je ne veux pas prendre ça de haut, mais c'est vrai que c'est complètement fou, cette histoire. Que d'y être et de voir ce qui s'y passe. Et aussi de sentir ce qui ne s'y passe pas. Ce qui ne s'y passe pas est de l'ordre de ce dont on essaie de parler ici.
Notamment des luttes politiques. Et précisément, quand on parle de cinéma, Jean-Louis Comolli, dans vos films, depuis notamment La Cécilia en 1976, votre première fiction consacrée à une communauté d'anarchistes au 19e siècle, en passant par vos documentaires sur la vie politique à Marseille, qu'avez-vous cherché à montrer du collectif politique ?
Alors, deux choses contradictoires. La première, c'est que c'est nécessaire, le collectif est nécessaire. Et la deuxième, c'est que c'est compliqué. Voilà. Et que c'est à la fois l'un et l'autre, et que c'est ça qui est intéressant. Ce qu'on appelle politique, c'est pas une voie royale vers un but, c'est au contraire un combat, enfin une bataille, où on ne sait plus très bien où on est, où on cherche son chemin. Et d'une certaine manière, ceux qui ont tenté, qui tentent toujours aujourd'hui d'ailleurs, l'aventure de la communauté ou du collectif ou du groupe, ben vivent ça de façon très, très forte. Et je trouve que c'est une des questions qui se pose véritablement aujourd'hui à tous ceux qui ne sont même pas dans des groupes, c'est bon, qu'est-ce qu'on attend d'un chef ? Qu'est-ce que c'est qu'un chef qui ne dit pas son nom ? Comment rassembler des gens autour d'un but sans les organiser ? Comment les organiser ? Voilà des questions politiques, au sens fort du terme, que d'une certaine manière, les anarchistes ont explorées, ont mis en pratique et dont ils ont subi aussi les difficultés. Je pense aux anarchistes de la guerre d'Espagne. Bon, en Espagne, dans les années 30, le mouvement anarchiste était un mouvement majoritaire politiquement. Il y avait plus d'anarchistes que de socialistes, que de communistes, et même que de bourgeois libéraux. Et pourtant, les anarchistes ont eu de grandes difficultés à se penser comme une organisation, au sens fort du terme. Et donc, ils ont tenté de s'organiser sans s'organiser, et ça a été très difficile. Voilà, moi, c'est cette question qui m'intéresse. Je pense qu'elle se pose à nous très fortement aujourd'hui.
Jacky Berroyer.
C'est le sens profond de l'Alcibiade, puisqu'on va parler du film.
L'Alcibiade de Platon, séminaire de Benny Lévy que vous avez filmé et dont vous avez tiré un film d'une heure, un documentaire.
Hein, oui.
Merci, mais c'est quelque chose qui est valable aujourd'hui. Quoi. Qui peut faire quoi ? Qui est à sa place ? qui est en mesure de commander avec le moins de casse? Est-ce que Netanyahou, est-ce que François Hollande sont à leur place ou est-ce qu'il y a des gens? Et ce qui est drôle dans cette histoire de où Socrate avait flairé en Alcibiade quelque chose qui pouvait coller à ce niveau, a dû être très déçu parce que quand même ce type, il s'est avéré que c'était une sorte d'hyper Bernard Tapie de l'Antiquité, si on peut dire. Et enfin, tout ça quoi. C'est d'ailleurs pour ça que le dialogue commence par une question, comme le faisait toujours Socrate, d'après Platon, une question un peu bête. Est-ce que Alcibiade, si tu dois faire réparer tes chaussures, est-ce que tu vas chez le cordonnier ou chez le boulanger? Alors, dans un premier temps, on répond, chez le cordonnier, évidemment. Et un peu plus tard, c'était ça la manière de Socrate, les questions deviennent un peu plus complexes et d'un seul coup, la personne est mise en face de ses contradictions. Mais ne disais-tu pas tout à l'heure que... Alors là, voilà ce qui se passe dans l'Alcibiade.
Jean-Louis Comolli.
Oui, j'ai vu ce film que je trouve très, très fort. Mais ce qui m'a le plus frappé dans le film, c'est Benny Levy lui-même. C'est-à-dire son jeu, ou sa manière de jouer.
Pour lui, c'était grave dans son attitude.
Ah, c'était incroyable. Cet homme porte en lui une force pédagogique insensée qui est tout à fait à l'écart de ce qu'on a l'habitude de considérer comme tel. Et ça m'a fait penser que ce qui est transmis à travers un enseignement comme celui de Benny Levy, bien sûr que c'est le contenu, les énoncés, les références, tout ce qu'on voudrait le savoir. Mais c'est aussi la manière d'en parler. Cette liberté incroyable du corps, de la voix, qui fait que...
Je vous propose d'entendre cette voix, justement, instant, pardon. À propos des commencements et du commencement du film de Pascal Thirode et Jacky Berroyer.
Le petit mot d'initiation, il va virer de sens à vos oreilles au fur et à mesure de cette séance. C'est l'objet de cette séance. Initiation, ça veut dire s'engager dans, entrer dans. Cela veut dire commencer. Et il y a ici un point vertigineux dans ce commencement qui est cela même qui m'intéresse.
Jacky Berroyer, dans cet extrait, on entend la voix un peu chevrotante, les effets de voix comme quelque chose peut-être de théâtral de Benny Levy. On parle aujourd'hui du collectif, du nous dans la grande table d'été. Le nous, ça commence à deux. Comment vous êtes-vous engagé, initié à la pensée de Benny Levy et peut-être avec un certain vertige?
Non, mais j'ai tout simplement assisté à des séminaires de Benny Levy à Jussieu, Paris 7, en ces années-là. Je le trouvais tellement extraordinaire dans sa manière de faire. Et en même temps, comme j'étais curieux un peu de certaines pensées, quand il y avait des commentaires sur les penseurs ou sur les enseignants, on disait, si vous aviez vu le prof de Sartre et de certains autres là, de cette époque, c'était pas seulement sa pensée, c'était aussi sa présence, sa manière d'être, son ton et tout ça. Et puis, alors je me dis, puis à la fin, il n'y a plus que des livres et des photos. Et là, je me disais, peut-être qu'il faut faire quelque chose. Alors, je le lui ai proposé à lui. Je lui ai dit, on pourrait peut-être enregistrer quelque chose, filmer pour avoir des archives, des souvenirs et tout ça. Alors au début, il était un peu méfiant. Puis à un moment où j'avais presque laissé tomber, il est revenu vers moi en me disant « Alors, qu'est-ce que cette histoire ? On en reparle. » Et voilà. Et donc, avec très peu de moyens, j'ai appelé une amie qui avait une caméra et tout ça. Et on a commencé à faire ce travail. C'était très délicat parce qu'il fallait pas gêner le cours. Hein. Alors, du point de vue du son, des choses comme ça, on pouvait pas installer un matériel et aller promener des perches au-dessus des élèves. Tout ça les aurait perturbés. Mais enfin, ça s'est fait. Et ensuite, c'est resté dans des tiroirs longtemps, parce que quand je le montrais à des gens susceptibles de m'aider à faire quelque chose, en fait, j'en avais 30 heures, il y avait tout un séminaire, et je voulais en extraire une certaine partie pour montrer ça, pour voir. Puis après, peut-être que les gens pourraient y avoir accès, au reste par le net ou par un livre, etc. Bon, bref. Tout ça retombait, les gens trouvaient ça merveilleux, mais ça retombait comme un soufflet raté. J'ai fini par mettre tout ça dans un tiroir. Puis enfin, plus tard, Benny est mort. Et puis, on a décidé les gens ont décidé de faire un anniversaire. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, il faut que je m'y remette. Il faut vraiment sortir. C'est comme ça que le film a fini par exister.
Donc, Benny Lévy, fragment d'un enseignement de Jacky Berroyer et Pascal Thirode. Gilles Anus, philosophe, vous travaillez sur la pensée de Benny Lévy. Le Benny Lévy qui est attrapé dans le film de Jacky Berroyer, c'est celui de 1995-96, quand il est retourné vers la philosophie, quand il s'est tourné vers l'étude du Talmud, de la Bible. Mais il y a eu un autre Benny Lévy avant cela, le Pierre Victor, fondateur de la gauche prolétarienne, groupuscule maoïste. Est-ce qu'on peut parler, puisqu'on parle du collectif, d'un cheminement de Benny Lévy, du collectif des Mao, de la gauche prolétarienne vers l'individuel, Gilles Anus ?
Alors, je ne le dirais pas dans ces termes-là. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un cheminement du collectif qui était d'abord un collectif politique, effectivement, un groupuscule, hein, la gauche prolétarienne, qui a une certaine importance dans la vie politique française des années 70, mais enfin, qui en même temps est vraiment un groupuscule. Il y a un cheminement de ce collectif-là, le collectif donc dans sa forme politique extrême, à d'autres formes de collectifs. Parce qu'en réalité, ce qui caractérise Benny Lévy, qu'il fut Pierre Victor ou le Benny Lévy qu'on voit dans le magnifique film de Jacky Berroyer et de Pascal Thirode, Benny Lévy, ça a d'abord été quelqu'un qui essayait de faire circuler la parole. Alors, circuler la parole au sens politique du terme, ça c'est la gauche prolétarienne. Puis ensuite, avec certains, moi j'appelle ça les naufragés, disons, de la gauche prolétarienne, ce qui s'est appelé le cercle socratique, donc un espèce de groupe informel dans lequel ces gens-là discutaient pour essayer justement de comprendre ce qui, malgré l'échec de la gauche prolétarienne, malgré l'échec de ce nous politique radical, faisait encore lien entre eux. Et puis le banquet s'inscrit exactement dans cette continuité, dans ce cheminement. Alors c'est une autre forme, parce que ce qu'on veut faire au banquet...
Banquet du Livre de la Grâce, donc.
Voilà, au banquet du Livre, oui. Et Benny Lévy a contribué à l'invention de ce banquet. Ce qu'on veut faire ici, c'est effectivement mettre en œuvre cette circulation de la parole qui fait que le nous, parce que depuis tout à l'heure, j'écoutais les deux autres intervenants, moi j'aurais tendance à distinguer deux choses, si vous voulez. Il y a le collectif, et puis il y a le nous, ce qu'on cherche à désigner sous ce nom un peu étrange, ce pronom, le nous, le groupe. Le collectif, me semble-t-il, c'est un intermédiaire entre l'individu et puis un groupe authentique. Et le collectif, c'est justement le lieu de tous les dangers pour la constitution du nous, puisque ça peut parfaitement donner lieu à un groupe qui aura une existence, une certaine durée, comme ça peut donner lieu à une institution, donc un groupe figé, à quelque chose qui va se refermer sur soi et qui sera donc plutôt un « on » qu'un « nous ». Et c'est l'enjeu ici, au banquet, c'est précisément de trouver de nouvelles manières, après la manière politique, après éventuellement la manière religieuse pour certains, trouver de nouvelles manières de faire en sorte que le « nous » ne coagule pas et ne se transforme pas en une institution comme on en attend autour de nous.
Jean-Louis Comolli, ce « nous », il est fortement teinté d'idées de gauche, puisqu'on parle de politique. Vous, dans le cadre de vos films, en particulier de votre série de portraits politiques de la ville de Marseille, vous avez filmé le Front National, qui est aujourd'hui plus fort que jamais. Qu'en est-il de ce « nous », justement, brandi, ce « nous » nationaliste brandi par le Front National? Qu'est-ce que vous en avez saisi, vu et peut-être montré?
Le nous, c'est pas une essence, c'est pas un objet naturel, c'est une construction, c'est une élaboration. Et donc, qu'est-ce qu'on fabrique? C'est ça la question. Nous, qu'est-ce qu'on fabrique? Le collectif, dans l'improvisation de jazz, il est clair qu'ils font de la musique, qu'ils fabriquent une musique, une forme nouvelle peut-être, ou une forme changeante de faire de la musique. Alors le nous qui est en jeu, Gilles a raison, qui est en jeu à la grâce, est un nous qui tente à fabriquer un être ensemble différent, par exemple non disciplinaire, ce n'est pas absolument ce que je pense du Front National. voilà, non, comment dire, nous, la liberté, voilà, la liberté est là, la singularité est la liberté. Moi, ce dont j'ai peur, que ce soit le Front National ou d'autres mouvements, c'est au contraire l'uniformisation, la militarisation, où finalement, le rêve du leader, c'est d'avoir des individus tous semblables et tous obéissants. Ben non, c'est autre chose que je crois qu'il faut faire.
À 13h passé de 16 minutes sur France Culture, c'est l'heure d'À première vue, la chronique d'Aude Lavigne, qui reçoit aujourd'hui Aude Cordonnier du Lac de Dunkerque, le lieu d'art et d'action contemporaine.
Aude Cordonnier est la directrice du Lac de Dunkerque, le lieu d'art et d'action contemporaine. Au téléphone, Aude Cordonnier répond à notre question. Quelle œuvre est à l'origine de son goût, de sa vocation, de sa sensibilité pour l'art contemporain ? Entre deux réunions, à première vue, Aude Cordonnier répond.
Oui, alors ça fait déjà longtemps maintenant. Si j'essaie de me replonger en arrière, je pense que c'est une composition, une peinture de Poliakov, qui s'est trouvée au Musée des Beaux-Arts, au Palais des Beaux-Arts de Lille, qui était d'ailleurs un peu en décalage par rapport au musée, dont les collections étaient surtout la collection de la grande peinture classique.
Quelle peinture exactement ? Poliakov, Cordonnier ?
Poliakov, composition, donc une œuvre dans les années 60. Et alors, ce qui me touche, parce qu'elle m'a touchée énormément quand je l'ai rencontrée, d'autant plus qu'elle arrivait un peu par éruption dans ce lieu qui possède des œuvres tellement formidables de la grande peinture flamande ou de l'art français du 19e. Ce qui me touche toujours chez Poliakov, c'est cette solidité, cette fragilité, cette peinture avec des matériaux pauvres. On est dans une période où les artistes ont les moyens, mais des matériaux donc travaillés, mais où l'on voit apparaître à travers différentes couches tout le temps de la création, donc les différentes couleurs qui se superposent, ce jeu aussi de formes qui ne sont pas vraiment intercalées et qui sont tout le temps fermées et ouvertes à la fois, cette extraordinaire poésie, j'irais plus spiritualité qui se dégageait de cette œuvre. C'est très subjectif, la relation qu'on a à une œuvre, mais ça a été une émotion très très forte.
Poliakov, plus de détails peut-être, Aude Cordonnier.
Ce ne sont pas des formes réellement, ce sont des débuts de formes, mais qui se cassent à chaque fois et qui sont fermées et ouvertes comme le fait Poliakov. Ce sont ces bleus, ce noir, ce rouge, ce jaune qui viennent s'inscrire côte à côte, et derrière le bleu apparaît, on laisse transparaître un rouge, derrière ce rouge on laisse transparaître un jaune. Donc les couleurs sont des couleurs qui se mêlent, couleurs qui est en dessous. La matière elle-même, c'est une matière un peu racleuse, qui pourrait faire penser dans sa texture presque à du sable. Et une matière donc extrêmement vivante. Et puis, ces formes, comme elles ne sont pas fermées, qui s'ouvrent à l'extérieur de l'œuvre et qui vous amènent à continuer votre chemin par rapport à l'œuvre.
Aude Cordonnier, vous parlez comme un Poliakov, on dirait.
Oui, cette rencontre avec Poliakov m'a vraiment ouvert à plein d'autres champs et elle est restée très très vivante intérieurement. Et il se fait que depuis, j'ai eu l'occasion de présenter à Dunkerque une grande exposition Poliakov avec le fils de Poliakov, et qu'il y avait effectivement entre nous quelque chose d'extrêmement fort qui était de l'ordre d'une compréhension intime et pas purement littéraire ou érudite.
C'était À première vue, la chronique d'Aude Lavigne. Mais alors faisons durer un peu l'émoi de la première fois avec vous, Jean-Louis Comolli. Quel film est donc à l'origine de votre goût, de votre vocation, de votre sensibilité de cinéaste ? Est-ce que c'était un film vu dans votre enfance au Ciné-Club d'Alger ?
Alors moi, je crois fortement que la première fois est une fable. Que nous construisons la fable de la première fois, que
après
nous avons forcément oublié la première fois, ça se perd dans la nuit des temps, et nous arrivons à la deuxième fois, peut-être à la troisième, et que donc nous faisons comme si c'était une première fois. Alors voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé à Alger ? Il y avait du cinéma, au ciné-club, il y avait aussi de la bataille dans les rues. Voilà, il y avait des
barricades. Donc c'était la bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo, cette première
très
fois.
Mauvais, très mauvais film entre nous. Et donc, voilà, il y avait cette tension que j'ai jamais retrouvée nulle part, où on entendait les grenades des CRS et on voyait les films d'Eisenstein au même moment ou presque. Voilà. Et pour moi, le cinéma reste marqué par ça. Alors, je ne sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas, c'est la fois qui compte.
Jackie Berroyer, avant d'être homme de cinéma, vous avez été homme de plume, que vous êtes toujours. Et s'il en est une, quelle lecture vous a décidé à la prendre, cette plume? Peut-être une lecture faite à Reims, dans votre enfance également. Je ne sais pas, la revue Le Grand Jeu de Roger Gilbert Lecomte.
Écoutez, à l'époque, je ne connaissais pas le Grand Jeu. J'ai découvert ça beaucoup plus tard, après avoir quitté Reims. J'ai pas de souvenir d'une amorce comme ça, c'était beaucoup de livres. Par contre, j'ai le souvenir de ma première fois pour autre chose. C'était dans une voiture et elle m'a griffé le dos très fort. Et je me suis dit, bah, c'est ça l'amour. Et non, ça a l'air quand même un peu sportif et agressif. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait des variantes dans tout ça. Mais une première fois comme ça, on se le rappelle.
Ça ne s'oublie pas. Fantasio, vous aimez bien les tigres aussi, même si votre emblème, ça a longtemps été l'éléphant. Vous allez jouer dans quelques instants avec vos Indus Bandits. Mais alors vous, votre première fois, c'était à l'adolescence.
Quand pourquoi votre... les tigres? Je vois pas.
Je vous ai vu avec des blousons, avec des tigres brodés, le dos.
Ouais, ouais.
Et alors cette première fois, c'était quand votre grand-mère vous a offert une contrebasse?
Première fois de quoi?
Qui vous a décidé à basculer du côté de la musique?
Basculer vers quoi?
La première
fois, c'est tout le temps. La première fois, c'est tous les matins. Non, pour la musique, tu veux dire?
Ce qui vous a lancé seul?
Je sais pas. Je crois que c'était la terreur. C'était vraiment pour résoudre des trucs, des terreurs psychiques, quoi. J'ai pas du tout fait de la musique en me disant, tiens, voilà, je vais faire ça, quoi. C'était parce que j'ai fini par bosser dans la restauration, des trucs comme ça, vers 15-16 ans en Italie, en France. Et j'ai vu l'état de terreur dans lequel ça me mettait de devoir, comment dire, de pas avoir le temps d'exprimer ce qu'on ressent dans ce genre de boulot, quoi. Et je me suis dit, comment je vais trouver une situation où je vais pouvoir traduire la tempête que j'ai dans le corps? Et du coup, je crois que c'était une contrebasse que ma grand-mère m'avait offerte et je suis parti assez vite faire la manche à Paris et puis après à Berlin où c'était un peu l'Eldorado.
Alors avant de partager...
Parce qu'à Paris c'était que Belleville
ou la Porte Dorée.
À Porte Dorée c'était avant, c'était avec des toxicos.
Et là on va partager un peu de votre tempête intérieure et de celle qui aussi habite et remue vos complices qui sont Emiko Ota et Paul Jacob qui sont avec vous dans le studio pour clore cette première partie tout d'abord de la grande table. Je tiens à vous remercier Jackie Berroyer. Je rappelle que votre film sera diffusé samedi dans le cadre du Banquet de la Grâce, donc c'est Béni Lévy, Trace d'un enseignement avec Pascal Thirode. Merci également Jean-Louis Comolli.
Il existera un DVD à la rentrée, voilà, les gens pourront. Et il existe aussi déjà un livre de tout le séminaire de l'Alcibiade qu'il avait donné, le même, chez Verdier.
Vous, Jean-Louis Comolli, il y a aussi un livre chez Verdier.
Oui, mais alors pas tout de suite.
Le corps et le cadre, en tout cas, qui est voilà, déjà disponible.
Il est écrit, il n'est pas encore imprimé.
Ah. Voilà. Merci aussi Gilles Anus qui était donc en ligne depuis le Banquet du Livre. Vous, votre conversation d'après-midi donne rendez-vous aux amateurs du Banquet du Livre de la Grâce. Ce sera vendredi 8 août à 16h, donc dans le cadre du festival. Et puis votre dernier ouvrage paru, lui qui est bien paru, c'est Penser à deux, Sartre et Béni Lévy face à face, édité chez l'Âge d'Homme en 2013.
La Grande Table, c'est aussi l'été avec Martin Kénéen.
Alors, avant d'ouvrir la deuxième partie de cette grande table d'été avec les Fantasio Indus Bandits, Thomas Sautinel, responsable des contenus culture au Monde, journaliste, nous fait l'honneur de nous parler de Souleymane Colly, puisqu'il a signé un très beau portrait de ce metteur en scène, chorégraphe et pédagogue guinéo-ivoirien dans le journal Le Monde.
Je ne pouvais pas m'imaginer que 40 ans après, nous serions encore en train de parler du côté bas. J'avais envie de faire du théâtre, j'étais dans l'administration. Et je me suis lancé.
Êtes-vous satisfait, êtes-vous fier de ce qu'il est devenu?
Fier, certainement, surtout par rapport aux personnes qui sont passées entre les mêmes mains, les hommes et les femmes qui sont passées entre les mains et qui aujourd'hui font de belles carrières. satisfait, oui, mais en même temps, avec une envie d'aller plus loin, parce que je me dis qu'on peut faire mieux. Maintenant, le reste de l'héritage, enfin, l'héritage du Côte-Bas appartient à toute l'Afrique et au monde entier, à toute la jeunesse.
Alors Thomas Sautinel, on entendait à l'instant la voix de Souleymane Colly, une voix enregistrée il y a quelques semaines à peine par nos collègues confrères de RFI. Vous avez signé donc un très beau portrait intitulé « Maître du théâtre d'Afrique de l'Ouest » à propos de Souleymane Colly qui est donc mort vendredi du côté de Conakry. Qu'est-ce que ce Côte-Ba dont il nous parle dans cet enregistrement Côte-Ba qui, je le rappelle, signifie le grand escargot?
Alors le Côte-Ba, c'était l'ensemble Côte-Ba, c'était la troupe de Souleymane Colly qu'il a fondée en 1974, et le nom était repris d'une tradition mandingue malienne de théâtre satirique. Et donc c'était la satire, l'ironie, la moquerie, c'était un des ressorts du Côte-Ba dans un pays, puisqu'il s'est Souleymane Colly, qui était né en Guinée, s'était installé à Abidjan, qui était vraiment la grande métropole francophone dans ces années 70, en Afrique de l'Ouest, et ça injectait dans la vie ivoirienne, dans la vie de la région, une dose d'humour, d'impertinence, dont la région avait sacrément besoin en cette période de dictateur, de président à vie.
Thomas Sautinel, précisément, on a beaucoup parlé de politique dans cette première partie de l'émission La Grande Table d'été sur France Culture. Et vis-à-vis de la politique, Souleymane Colly avait une attitude un peu ambiguë avec ce théâtre satirique éminemment politique, destiné aux masses, en particulier de Côte d'Ivoire. Et puis un rapport que vous rappelez un peu particulier avec le rapport, avec le pouvoir ivoirien.
C'est vrai qu'il a été conseiller au ministère de la Culture. Je ne sais pas si son rapport était fondamentalement différent de tous les artistes qui ailleurs travaillent dans des structures d'État. Je crois qu'il a su garder une indépendance de création très grande et aussi, et c'était ça le grand défi, intéresser un tant soit peu les régimes à la culture qui était vraiment le cadet de leurs soucis. Je crois que c'était plus Il me semble, pour autant que j'ai pu comprendre ça au temps où j'étais correspondant à Abidjan, que c'était plutôt ça, sa démarche, plutôt que de manger, comme on dit en Afrique de l'Ouest. Et d'ailleurs, il a maintenu, une fois qu'il a été éloigné des cercles du pouvoir, il a maintenu le Côte-Ba contre vent et marée en y accueillant toujours de jeunes artistes qui n'avaient guère d'autres possibilités de s'exprimer.
En l'occurrence, on l'entendait dans cet extrait de la voix de Souleymane Colly qu'on diffusait il y a un instant, il y a aussi cette figure de passeur. Alors vous le dites Thomas Sautinel, Souleymane Colly a joué le rôle de passeur vis-à-vis des élites politiques de son pays, mais a joué et continue de jouer le rôle de passeur auprès de toute une génération d'artistes.
Oui, je crois qu'il me semble que l'un de ses talents, c'était d'être vraiment en prise sur les... mutations culturelles de la jeunesse, des grandes villes, qui sont des mutations culturelles qui se passent complètement en dessous des radars institutionnels. C'est vrai que c'était assez surprenant dans les années 90 de voir que trois filles sortir du Côte-Ba, c'était les go du Côte-Ba, et qui deviennent des stars de la musique populaire ivoirienne parce qu'ils savaient assimiler toutes ces culture, toutes ces tendances musicales, de danse, etc., qui émergeaient des quartiers populaires et des habitats précaires d'Abidjan, et en plus donner conscience aux gens qui les pratiquaient que c'était aussi de l'art, que c'était aussi de la culture, et pas simplement, enfin, leur donner une reconnaissance qu'ils ne trouvaient pas ailleurs.
Merci beaucoup Thomas Sautinel. Je rappelle donc que vous êtes le responsable des contenus culture au monde et votre portrait nécrologique de Souleymane Colly peut être retrouvé sur votre site internet lemonde.fr. Et puis à l'instant, eh bien, à l'orée de cette deuxième partie de la Grande Table d'été, je vous propose de retrouver non pas des musiciens d'Afrique de l'Ouest, même si comme on dit en ouchi, ce sont des fistons choc. Il s'agit des Fantasio Indus Bandits, des boucaniers qui vous proposent plutôt une musique bâtarde franco-indienne. Et c'est en live dans le studio de France Culture.
nous sommes de retour ce soir. Invisible à moitié mort, pour faire un bilan sévère des hommes au cœur de fer. Quand nous cherchons nos chemins dans vos regards du dédain, de la peur, de la lâcheté, dans vos âmes égarées. Est-ce la peur d'Al-Qaïda ou bien des jeunes du 9-3 ou du grand Amin Dada, sacré roi par les Gaulois, dans la jungle d'Ougan, 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 de ces hommes me fait l'effet d'un rubis qui se rajoute une facette dès qu'une lueur nouvelle jaillit. La singularité de ton âme s'évanouit dès qu'une phrase plombe. Viens pour épouser les normes des maladies de la nation.
Sapidum anaitum, kudikum anaitum, veshamakum bhoomil mulaithade, idhil vaazhvadum saavadum ungal kaiyile. விரிவித்து வா பரப்போமே.
Vous ne voyez plus vos enfants, ils ne sont plus que cure-dents, un faire-valoir, un porte-clés, un semblant de réa, 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 réa. Réa, 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 l'ité.
Les Fantasio Indus Bandits en direct dans le studio de France Culture de la Grande Table d'été. Les Fantasio Indus Bandits qui seront mercredi 6 et vendredi 8 août à Paris dans le cadre du festival Paris Quartier d'été et qui sont donc tout de suite à présent en chair et en os dans notre studio qui nous rejoignent. Il s'agit donc de Fantasio à la contrebasse, Paul Jacob, multi-instrumentiste. Je ne sais pas quel est le nom de l'instrument que vous avez joué à l'instant.
It's a instrument from Bengal.
C'est un instrument du Bengal qui s'appelle le komok.
Yeah.
Et à vos côtés, vous avez rejoint Emiko Ota, percussionniste. Oui. Bonjour, bonjour à tous trois. Merci d'être là. On parlait du collectif avec Jean-Louis Comolli, Jackie Berroyer, Gilles Anus autour du thème du banquet du Livre de la Grâce en première partie. Je vous propose d'embrayer et de continuer sur ce thème important s'il en est et qui a une importance particulière dans votre vie, Fantasio, puisque vous avez commencé en jouant seul, vous en disiez un mot tout à l'heure, à faire la manche dans les squats, dans les bars, dans les rues, dans le métro. Et puis petit à petit, vous avez osé vous tourner vers d'autres musiciens jusqu'à former les Fantasio Indus Bandits, ce groupe qui se joue, qui se produit actuellement donc dans le cadre de Paris Quartier d'été. Vous aviez, dites-vous, au départ, des théories anti-groupe.
Disons que j'ai développé enfant, comment dire, des méfiances très cruelles des autres en général, mais qu'à la fois c'était des allers-retours entre des moments d'inondation d'amour, enfin, ou de tendresse très forte. Par exemple, je regardais des gens parler, deux personnes qui se connaissaient pas, et je pouvais me tenir à distance, et ça me procurait une émotion très forte. Et en même temps, je pense que j'ai fait que ça, quoi, que des allers-retours entre des états de solitude extrêmes et des moments de groupe très forts aussi, quoi.
Alors précisément, vous étiez un peu à l'abri quand vous étiez seul, mais qu'est-ce qui vous a décidé à oser vous tourner vers le collectif ?
Eh ben, en fait, ça s'est fait tout petit à petit en dégradé, quoi, un peu avec la musique, mais mon rapport aux autres était faussé parce qu'en traînant dans la rue, c'était mon cas. Donc dès 13 ans, j'avais un rapport aux autres qui était un truc un peu de... C'était l'époque punk, donc c'était déjà être dans un rôle public, quoi, une sorte de truc comme ça. Donc le but, je me souviens, à 13-14 ans, c'était de prouver que tu connaissais les mecs qui traînaient à Paris, aux Halles, dans le 14e, que tu en connaissais le plus possible, que tu connaissais des méchants, des gentils, enfin que tu connaissais une palette de gens fortes. Et après, et c'est la musique, je pense, qui m'a créé une forme de solidité, c'est-à-dire que c'était possible de travailler ensemble dans la durée sans être écœuré par les autres. Parce que, tout simplement, quand je rentre en rapport avec quelqu'un, au bout d'un moment, une forme de... Enfin, il y avait une forme de dégoût de l'autre aussi fort que le dégoût de moi-même qui prenait le pas sur le rapport. Et je ne savais pas comment faire au bout d'un moment. Donc j'étais très enthousiaste, comme tout le monde, très enthousiaste des rapports au début. Puis après, je sentais des sortes de... des ondes sombres et très... des ombres abominables de déception qui commençaient à remplir mon corps d'algues à la Dark Vador, quoi.
Paul Jacob, vous qui jouez avec Fantasio dans les Fantasio Indus Bandits, grâce au fait que Fantasio a réussi à chasser ces ombres qui l'habitaient parfois. Justement, vous avez formé ensemble ce groupe. Comment les Fantasio Indus Bandits, ce collectif s'est-il formé ?
Yeah, for me it was really the moment I was waiting for many years.
C'est le moment que j'attendais depuis des années, à vrai dire. Il fallait que je rencontre un fou aussi fou que moi, parce qu'en Inde, tout le monde me considérait comme étant totalement dingue, fou.
Mais
étant donné qu'en Inde, il y a quand même 1 milliard d'habitants, le sens du collectif, ça va, on se retrouve même dans les toilettes à plusieurs, vous voyez, c'est ça l'Inde.
Et
c'est un projet très important pour Fantasio et moi, parce que c'est la convergence de l'occidental et de la philosophie indienne qui consiste à essayer d'échapper à son corps, d'échapper à son esprit et d'essayer de voir des choses depuis l'extérieur. Ce n'est qu'alors que l'on se rend compte de notre infime importance en tant qu'être humain. Nous sommes tout petit, et plus on travaille de manière collective, plus on arrive à créer de la musique. C'est un petit peu ce qui pousse, c'est le moteur de la musique. Et c'est une expérience assez spirituelle, je dirais même. En effet, sur le plan personnel, cela m'a permis de comprendre bon nombre de choses, bon nombre d'inhibitions que nous avons quant à l'Occident. Donc, vous voyez, tout cela, on peut le surmonter. Parce qu'au bout du compte, Fantasio s'est retrouvé plus indien que moi en vivant le présent. Il est toujours plongé dans le présent, ce qui est la meilleure chose, évidemment.
Fantasio, précisément, vous vous êtes rencontré avec Paul Jacob et avec Kavita Gopi à Chennai, donc l'ex-Madras, au cours d'un festival. Ensuite...
Paul, d'ailleurs, dit Madras, il ne dit pas de Chennai. Mais
donc, c'était à Madras. Vous avez poursuivi votre collaboration jusqu'en Berry, pays de sorcières. Vous jouez là à Paris Quartier d'été ensemble. Quelle expérience du collectif, justement, avez-vous fait en Inde pour devenir, comme le disait Paul Jacob à l'instant, plus indien que lui?
Non, mais je pense que tout est dans le cœur ou dans la tête. Et en Inde, j'ai pratiquement rien vécu. C'est-à-dire, je suis allé vraiment que deux fois. J'imagine qu'il y a des gens qui avaient... Enfin, bon, c'est peut-être pas une histoire de durée. Peut-être les gens ils disent, tiens, ça fait 20 ans que je suis dans un pays. J'avais vu justement des Français au Japon qui disaient qu'ils s'enorgueillissaient d'être là depuis 20 ans, mais qui passaient que du temps entre eux, entre Français. Enfin, bref. Mais je sais pas, moi, l'Inde, c'est que des sensations. J'ai rien de... C'est par couche, quoi. J'ai pas d'attraction particulière. Je retiens juste que ce qu'on a pris de l'Inde jusqu'à présent, c'est cette sorte d'euphorie hystérique dans les années 60 où on aurait ramené d'un coup ce qui nous aurait manqué pour vivre, pour vivre l'existence, quoi. Et ça, bon, voilà, ça, à mon avis, ça a été assez une sorte d'hystérie qui est vite retombée. Et non, mais je vois juste qu'il y a des choses qui s'essoufflent très fort en Occident, mais je ne cherche pas particulièrement en Inde une solution. C'est, pour moi, la solution se fera de frottement et de choc, même pas des cultures, parce que je ne crois même pas qu'il y ait des chocs des cultures. Ça, c'est une invention, à mon avis. Mais c'est des frottements de situations avec des personnes qui donnent des idées, que ce soit en musique ou dans l'existence, quoi. Et c'est des frottements de personnes qui redonnent, qui font des sortes de chimie de renaissance, quoi. C'est-à-dire que qui nous remontent du doigt les trucs primitifs, hein, les sensations primitives essentielles de joie ou de violence pure, quoi. Enfin, dont on a besoin pour trouver des idées, vu que pour moi on est largement à court d'idées, et surtout en Europe, quoi. Enfin, en Inde aussi, j'imagine.
Emiko Ota, percussionniste, vous avez rejoint Paul Jacob et Fantasio, peut-être pour leur donner un peu d'idées, peut-être que, en tout cas, vous avez rejoint ces Fantasio Indus Bandits, vous êtes d'origine japonaise.
Oui.
Quel sens le collectif a-t-il pour vous ?
Ah, collectif, bon, moi, plutôt, j'ai presque jamais joué tout seul, voilà, c'est... facile de jouer avec Anders Bandi. Voilà.
Il y a quelque chose de japonais dans le fait de toujours travailler avec le collectif, de toujours travailler en communauté, parce qu'on se représente volontiers.
Le
Japon, comme une société très structurée.
C'est vrai. Oui, comme des tambours japonais, des groupes de tambours japonais, c'est vraiment c'est ça. Et. Comment dire, des musiciens, mais en même temps, comme sportifs. Et tout le monde vibre ensemble et tous les matins, les bébés ensemble, courir, après entraîner des tambours et tout ça aussi, c'est tous les japonais.
Mais alors, le fait que vous jouiez toute seule, que vous soyez soliste avec ce tambour japonais qu'on entendait à l'instant, c'est quelque chose de transgressif? C'est une provocation? C'est révolutionnaire de votre part?
Très difficile de jouer tout seul, oui. Et c'est assez violent pour moi de jouer tout seul, oui.
Et Paul Jacob, vous disiez être repéré, identifié comme un dingue dans la société indienne qui joue volontiers le collectif. Vous êtes musicien, mais aussi producteur de musique dite indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire être indépendant aujourd'hui en Inde?
Actually... Independent in India, I think it's not yet an idea.
La notion d'indépendance n'existe pas vraiment encore dans le domaine de la production musicale en Inde.
It's so hard to be independent
with 1 billion people. C'est très difficile d'être indépendant avec 1 milliard de personnes autour de soi.
But yes, there is some movement towards independent.
Quoi qu'il en soit, il y a une sorte de tendance vers la musique indépendante, le cinéma indépendant, les arts de manière indépendante. Bon, on n'en est qu'au début. Il faut attendre. Il faut attendre pour que ça prenne du sens en Inde. Parce que, évidemment, il y a Bollywood qui est une force immense en Inde, et sinon un million de dieux qui nous observent de leurs yeux. Donc il faut plaire à l'un et ne pas déplaire aux autres, vous voyez. Et ensuite, on peut réfléchir à notre bien-être à nous. D'une façon générale, on ne peut pas parler de mouvement indépendant en Inde. Parce que pour arriver à ses fins, on ne peut pas travailler seul. Il faut beaucoup de gens pour vous représenter et pour vous faire remarquer. Tout se fait de manière collective. Et du reste, ce groupe-ci est l'un des groupes les plus petits dans lesquels j'ai jamais joué depuis 5 ans. Moi, j'ai joué dans des groupes avec 45, 200, 250 artistes sur scène, 250 musiciens sur scène, vous m'avez bien entendu. Donc vous voyez, ça, c'est collectif, c'est un collectif de dingues venus de partout en Inde. Et du reste, nous avons lancé quelque chose à Chennai, Madras, pour surmonter certaines barrières qui existent en Inde. Parce qu'il y a le classique, Bollywood, ou la musique folk, ou le rock and roll, vous voyez ce genre de catégorie, ce genre de silo. Et nous avons rassemblé les représentants de ces genres différents sur scène, et ça commence à devenir une entité en soi, une sorte d'être vivant en tant que tel maintenant. Sur le plan personnel, moi, cette idée de collaborer avec d'autres musiciens me passionne, et je ne me considère en rien comme un individu dans ce processus de création musicale. Je ne suis pas un individu, c'est impossible d'avancer seul. Je préfère avoir non seulement les vibrations musicales des autres, mais aussi je voudrais bénéficier de la vibration de l'esprit, du corps et de l'espace. J'apprends tant de choses de mon expérience de l'espace. Je suis ravi d'être ici, très heureux d'être ici et de travailler en collectif, comme vous dites.
Alors nous sommes dans l'espace du studio numéro 1 de France Culture, et je vous propose, Paul Jacob, de retrouver vos compères. Vous n'êtes que 3, et pourtant, quelle puissance, celle des fantasmes. Fantasio, Indus, Bandits, leur puissance de feu.
Esa vez, animal, vas a morir. Esa vez, te vas a ir. Esa vez, mi suspiro, vas a dejar. Ese cuerpo que te sirvió de lugar. Vehículo alquilado que te hospedó. Desde niño carrapaz, aunque te acompañó. En cualquier movimiento, en algún lugar. Te siguió y a veces él y tú se siguieron juntos. Esa vez, animal, vas a pasar. De tu cuerpo a los cuerpos de lo demás. Esa vez, animal, vas a dejar. Ese cuerpo cáscara en cualquier hogar. Esa vez, animal, te vas a ir. Desperta a los otros, déjalo dormir. Esa vez vas a dejar de comentar, comentar, analizar. Again.
Fantasio Indus Bandits dans le studio de France Culture en direct. Fantasio Indus Bandits qui joue donc le 6 et le 7 août dans le cadre de Paris Quartier d'été, ce festival. Composé donc ce trio d'Emiko Ota aux percussions, Paul Jacob à la guitare, une guitare étrange à quatre cordes et qui n'était pas un ukulélé, et Fantasio à la contrebasse. Un mot encore, Fantasio, si vous voulez bien me rejoindre à la table du studio, au micro, et non pas puisqu'on vous a mis un peu dans un recoin du studio comme des animaux en cage. Ce qui fait le propre de votre musique, c'est à la fois d'être bâtarde, hybride. On l'entend dans les langues que vous employez les uns et les autres dans le morceau que vous avez interprété pour nous. C'est aussi dans la façon que vous avez physiquement de vous adresser au public. On a beaucoup parlé de politique dans cette émission. Comment est-ce que vous fabriquez, sinon un discours politique, du moins du nous, du collectif, avec le public, à travers en particulier cette forme que sont les Fantasio Indus Bandits?
Ben, je ne sais pas comment je la fabrique. Ce que je pense que j'ai l'impression d'avoir travaillé à force, c'est d'avoir collectionné des situations, mais pas de les collectionner pour en parler. C'est simplement que c'est à force d'accumuler des situations, ça rentre dans le corps. Et ce qui me préoccupe, c'est qu'à chaque nouvelle situation, plutôt que concert, on essaye de sentir ce que ça veut dire, c'est-à-dire où on est. Il n'y a pas de raison de jouer et de faire de concert, en fait, pour moi, dans l'absolu. Donc, c'est comprendre où on est, où je suis moi, dans quel endroit, même quitte à le décrire, le lieu même, et dans quel endroit on est dans notre tête, dans notre corps, et dans quel endroit on a l'impression que les gens sont. Mais les gens, on appelle le public, mais le public, c'est qu'une somme de... Tu parles de collectif, parce que souvent, j'entendais parler les deux pirates
Comolli
tout à l'heure.
Jean-Luc Comolli et Berroyer, autre
filmusté. Tu sais, on dit souvent le mot groupuscule, où tu vas parler souvent des hommes politiques, tu vas leur parler d'une situation, ça m'arrive pas souvent, mais où deux mecs qui travaillent genre dans des services, ils vont dire ça c'est un petit réseau, un groupuscule, mais tout le monde n'est que petit réseau et groupuscule. Il n'y a pas de grand public, il n'y a pas une masse majoritaire, il n'y a pas un peuple et des petits réseaux satellites. Tout le monde est satellite, tout le monde est un petit corps avec du monde dedans, quoi.
Merci beaucoup Fantasio, merci Emiko Ota, merci Paul Jacob, les Fantasio Indus Bandits. Nous vous invitons, chères auditrices, chers auditeurs, bien sûr, à déplacer votre petit corps dans l'espace pour aller à leur rencontre un par un, mercredi 6 et vendredi 8 août, dans le cadre donc du festival Paris Quartier d'été. Information sur le site quartierdete.com. Et puis la musique populaire, oui, Fantasio.
Indus Bandits sera de retour normalement en septembre, mais par le biais d'Arte Radio, une émission spéciale avec Paul qui parle.
Donc c'est pas tout à fait, il n'est pas tout à fait besoin de décourter vos vacances si vous n'êtes pas à Paris. Profitez-en pour l'instant. La musique populaire, c'est un thème cher à Fantasio. Or, la culture à la française, et singulièrement l'été, ça n'est pas que des grandes messes branchées ou de l'avant-garde escarpée pour les Happy Few. C'est aussi tout un ensemble d'art, de traditions populaires, de gestes modestes et néanmoins fédérateurs, voire libérateurs, que Marine Loyen nous invite chaque jour à découvrir en guise de dessert dans notre grande table d'été avec sa chronique sucrée. Bonjour Marine.
Bonjour Martin.
Jusqu'à 14h, la grande table d'été, Martin Kénéen.
Et aujourd'hui, Marine, pour votre premier plaisir coupable de l'été, vous avez décidé de nous mentir.
Oui, ma première gourmandise de cet été a le goût de ces boniments, de ces impostures qui nous fascinent, qui nous effraient aussi parfois. Il n'y a qu'à suivre l'actualité, hein. Elle est peuplée de grands menteurs, des Jérôme Cahuzac, des Bernard Madoff ou des Lance Armstrong. Les affabulateurs alimentent aussi régulièrement la chronique des faits divers à la manière d'un Jean-Claude Roman qui, pendant 18 ans, fit croire à sa femme et à ses enfants qu'il était un médecin brillant. Mais le mensonge peut aussi se faire léger comme un canular, loufoque comme une chasse au dahu. Boris Vian en avait même fait un exercice dans sa chronique du menteur dans le journal Les Temps Modernes, chronique qui ne parut qu'à 5 reprises, mais on y apprenait qu'Edith Piaf, anoblie et en voie d'être canonisée par le pape, avait réalisé un film astucieusement rallongé, sans frais, grâce à des séquences tournées dans le noir. Eh bien, le mensonge, ou plutôt la menterie, c'est aussi la discipline favorite des 810 habitants d'un village du Lot-et-Garonne, le village de Montcrabeau, qui se vante de posséder le crâne du roi Henri IV enfant, exposé dans la prison royale, ou d'avoir vu naître l'informaticien en chef de Louis XVI. Et depuis 1972, tous les ans, la très sérieuse Académie des menteurs élit un nouveau roi à l'issue d'un grand concours. C'était justement hier. Yolène Première a été élue reine des menteurs. On passe donc un coup de téléphone au vice-président de l'Académie des menteurs de Montcrabeau. Bonjour Gilles Capot.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes le vice-président de l'Académie des menteurs. Vous êtes donc un grand menteur vous-même ?
Je la travestis que la vérité.
Hier, vous avez donc élu Yolène Première, reine des menteurs. Elle succède à une longue lignée de menteurs. D'où vient cette tradition ?
C'est une tradition qui remonte au XVIIIe siècle. Et à Montcrabeau, sur la place du village, au XVIIIe siècle, les gens se réunissaient puisqu'il n'y avait pas d'autre communication que la communication orale. Et les gens racontaient tout ce qui se passait dans la région, mais seulement dans la conversation, il y en avait certains qui n'avaient plus d'histoire vraie à raconter, qui en inventaient toutes pièces, et c'est là qu'est née la tradition des menteurs de Montcrabeau.
Alors concrètement, expliquez-nous comment se déroule la cérémonie, comment devient-on le roi des menteurs de Montcrabeau ?
Eh bien, les candidats envoient une menterie à l'Académie des menteurs, et une sélection de 8 à 9 candidats sont convoqués sur le fauteuil des menteurs, un fauteuil qui date de 1748. Il raconte sa menterie. 2 petites pages à l'issue de la menterie prennent un sac de jute et les académiciens sont membres du jury. Ils sont équipés d'une salière avec une cuillère et ils votent en fonction de la valeur de la menterie. Et à la fin du vote de tous ces académiciens, il y a une pesée. Et c'est celle ou celui qui a le plus de poids de sel à la fin du concours qui est sacré reine ou roi des menteurs.
Bah, on a du mal à s'imaginer. Vous avez sûrement en tête un exemple de menterie. Est-ce que vous pouvez nous en dire une ?
Moi, je vais la faire la plus courte possible, mais il faut savoir que les cultivateurs de Montcrabeau, les années 1600, cultivaient la menthe. Et on les appelait, évidemment, les menteurs, avec un H. Et la menthe de Montcrabeau était réputée dans le monde entier, à tel point qu'Henri IV, quand il venait à Montcrabeau voir son ami le baron de Riclès, il disait « Je vais à Montcrabeau boire la menthe forte qui me réconforte ». Et il avait, vous savez, Henri IV, son accent béarnais et tout ça, et tous les gens comprenaient qu'il allait à Montcrabeau voir son amante forte qui le réconforte. Et c'est pour ça, et ça c'est un scoop, qu'on l'a appelé le ver galant.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui fait une bonne menterie ?
Eh bien, une bonne menterie, c'est quelque chose qui paraît le plus vrai possible, pas mal d'humour, quelques jeux de mots, peut-être, et tout ça fait eh bien, une bonne menterie.
Vous élisez du coup chaque année un virtuose de la menterie. Est-ce que selon vous, c'est un art de mentir ?
Ah, c'est un art, oui. C'est un art. Moi, plus j'en écoute, je sais que ça fait maintenant plus de 30 ans que je suis à l'Académie des menteurs, et je me rends compte que c'est quelque chose qui ressemble à un conte. Il y a énormément de recherches de la part des candidats. Là, la reine qui a gagné hier, a fait une belle menterie, mais empreinte de poésie, de vérité. Et les gens parlent beaucoup d'histoire, mais aussi commentent l'actualité.
On a dans l'actualité des exemples, hein, et dans l'histoire de grands menteurs.
Ça serait la première fois que je ne mentirais pas. Mais nous avons eu, et il est dans le même département que nous, Jérôme Cahuzac, qui était du même département, mais ne croyez pas qu'il soit la seule personne à mentir. Ça serait grave pour le mensonge et pour la menterie à l'entier. Enfin, il faut quand même que vous sachiez que les hommes politiques, les avocats, les chirurgiens-dentistes, les météorologues et les journalistes sont attributaires de droit du diplôme de menteur de Montcrabeau, à condition de venir le valider lors du chapitre annuel, le premier dimanche d'août.
Et voilà, les journalistes aussi, hein, l'invitation est lancée. Prochaine édition, donc premier dimanche d'août, l'été prochain.
Merci Marine, rendez-vous demain sans mentir pour une nouvelle chronique de votre façon et pour une nouvelle grande table d'été. L'émission d'aujourd'hui était mitonnée par un petit collectif, que dis-je, un dangereux groupuscule composé de Corinne Amar, Catherine Donnet, Lola Kahn, Marine Loyen, Claudia Prolongeau et Martin Kénéen. À la réalisation, c'était Michel-Ange Vinti et à la technique, Jean-Guilain Meige.